Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, le privilège d'entendre Vanessa. Des emballages plus durables arrivent sur les tablettes. Et dégringolade du français écrit « À qui la faute? » Bonne écoute.
Le privilège d'entendre Vanessa. Un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. À seulement 32 ans, Vanessa destinée à une connaissance approfondie des médias québécois parce qu'elle les connaît de l'intérieur. Elle est pratiquement passée par tous les réseaux et les empires. Québecor, Radio-Canada, Télé-Québec, Nouveau, RTV, Rouge FM, Cube Radio, etc. Et par toutes les plateformes, télé, radio, web, en collaborant à des émissions comme « Décoloniser l'histoire », dans les médias, « Retour vers la culture », on va se le dire, la journée est encore jeune, de l'huile sur le feu. Bref, comme pour bien des millénarios, son CV est étourdissant et peu attaché à une maison en particulier. Son plus récent projet? Les clés du logis, une série documentaire très instructive sur la crise du logement au Québec diffusée au Canal Savoir. Et qui conjugue ce qu'elle aime dans son travail, soit le journalisme de solution, la justice sociale et la vulgarisation. Mais elle aime beaucoup aussi le côté givré de l'infodivertissement, le mélange de culture populaire et d'analyse sérieuse, admirative de ce qui se fait sur le web, qu'elle trouve plus libre que la télé. Quand elle a commencé dans la salle de nouvelles web de Radio-Canada, les Now 10, Vox, AJ+, ou BuzzFeed se développaient et l'ont beaucoup marqué parce qu'ils rejoignaient les gens de son âge. Mais quand a-t-elle eu la piqûre du métier? Jamais et je ne l'ai toujours pas. Répond-elle, ce qui me fait éclater de rire. C'est cette franchise que j'aime chez cette fille qui n'a pas la langue dans sa poche et qui ne se gêne pas pour critiquer les faiblesses d'une profession particulièrement mal aimée dans les sondages. C'est un corps de métier que le monde n'aime pas et il va falloir à un moment donné l'accepter et revoir notre position d'humilité, dit-elle. Il n'y a rien qui me fascine plus que des gens le cul bordé de nouilles qui sont incapables d'autocritique, et je trouve que notre milieu en est rempli. À quel point tu peux être arrogant quand tu sais que les trois quarts de la population ne t'aiment pas? Dit Vanessa Destiné. Je l'avoue, je suis une fan même s'il m'arrive de dire « aïe aïe » en lisant ses statuts sur les réseaux sociaux. Elle est de la génération de la crise étudiante de 2012 qui n'oubliera jamais, je crois, le traitement que les médias traditionnels lui ont fait subir. On lui a souvent dit de faire attention à ce qu'elle disait pour ne pas nuire à sa carrière, mais elle n'a peur de rien car de toute façon, être journaliste n'était pas le rêve de sa vie. Plus un accident de parcours, selon elle. Vanessa Destiné se voyait travailler en coopération internationale, gravir les échelons et, pourquoi pas, devenir diplomate. Je suis très consciente des différents enjeux, des capacités et des limites d'à peu près toutes les salles de nouvelles du Québec, à l'exception des médias anglophones que je connais vraiment moins. Ce qui dicte beaucoup le traitement de la nouvelle au Québec, c'est vraiment la culture d'entreprise. C'est ça qui va avoir une incidence sur nos intérêts et nos angles morts. Elle déplore la paresse et la mauvaise foi sur certains sujets. C'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir tout le temps raison et d'avoir tout compris. La job des journalistes est littéralement de fouiller des sujets pour que monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas le temps de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir comprennent mieux. Il faudrait peut-être retourner derrière la table et lire davantage avant de s'exprimer. C'est pour ça que je suis dur envers notre milieu qui n'a pas tant de critiques que ça pour le pouvoir qu'on a dans la société. alors que j'arrive avec un statut Facebook qui décoiffe « Excuse-moi, mais je suis un caillou face à Goliath. Si tu chiales à longueur de journée sur le reste de la société, tu es capable d'en prendre. » Elle rappelle que c'est tout récent, le fait que l'on s'intéresse à la composition des salles de nouvelles au Québec. Les journalistes sont bons pour parler des problèmes de discrimination et des manquements des autres ordres professionnels, mais il n'y a personne qui parle des journalistes parce que ça nous obligerait à parler des concurrents et ça se retournerait rapidement contre nous. Le rapport de classe et les « Nepo Babies » dans les salles de nouvelles, il faut en parler aussi. Il n'y a pas grand monde pour porter ce ballon-là et j'ai décidé de le faire parce que je n'ai absolument rien à perdre et que je n'ai pas d'attachement particulier pour ce milieu. Si ma carrière s'arrête demain, je serai correct. Je ferai autre chose. Vous écoutez « Le privilège d'entendre Vanessa », un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. Élevée par son père. Mais c'est tout le contraire qui se produit. On s'arrache Vanessa Destinée, qui est loin d'être une « Nepo Baby », ce terme américain, dérivé du mot « népotisme », désigne les enfants de vedettes qui montent vite dans le star system, entre autres parce qu'ils ont des parents célèbres. Elle est née en 1990 à Montréal, de parents haïtiens qui se sont rencontrés au Québec. Elle a très peu connu sa mère, qui a souffert de graves problèmes de santé mentale et a été élevée par son père, un homme sans instruction qui a vécu le chemin de croix de bien des immigrants. Dans mon parcours, j'entends parfois le mot « féminazie » et que les hommes souffrent aussi. Je le sais, je suis la première témoin de la souffrance des hommes. J'ai vu mon père pleurer très jeune, parce qu'à un moment donné, la pression d'être un homme immigrant pogné à élever seul un enfant, sans ressources, c'était une anomalie dans ce temps-là. D'avoir un père monoparental, pas juste chez les Haïtiens. Son père a mis tout son argent dans l'instruction de sa fille, qui est allée à l'école privée, pour qu'elle devienne quelqu'un. Un classique des parents immigrants, souvent lourd à porter pour leurs enfants. Sa trajectoire de vie a fait que ça n'a pas été possible pour lui, souligne-t-elle. Tu penses que tu viens vivre le rêve américain et tu te ramasses dans une manufacture où tu te fais traiter de « N-word » à longueur de journée et le moindrement que tu montes dans la hiérarchie, tu es tout le temps renvoyé à ton statut de noir. C'est ce qui est arrivé à mon père. Non seulement ce sont des emplois mal payés, qui sont brutaux pour le corps, avec des horaires de merde dans des endroits difficiles d'accès, mais ce sont tout le temps des atteintes à la dignité. Tu es déjà brisé physiquement et le racisme systémique, c'est que ça détruit aussi l'esprit. Qui est émotif? Alors, la menace woke, vous le devinez, elle n'y croit pas. Vous pouvez bien la traiter de woke, elle s'en balance, mais ne lui dites jamais qu'elle est une militante, car c'est selon elle une insulte pour les vrais militants qui travaillent sur le terrain. Ce qui me dérange, c'est que les woke sont présentés comme des gens irrationnels, guidés par les émotions, incapables de recul et de regard critique, alors que les gens en face, souvent des personnes blanches et des hommes, vont être des gardiens de la pensée rationnelle, dit Vanessa Destinée. C'est émotif de part et d'autre, mais il y a une émotivité qu'on ne pardonne pas aux minorités, alors que la majorité nage dedans au quotidien. Si on prend l'exemple du mot qui commence par « N », on accuse la communauté noire d'être super émotive, mais c'est tout le temps des Blancs qui en parlent et qui capotent à l'idée de mettre un avertissement au début de la « petite vie ». Parce que son père travaillait beaucoup, Vanessa Destinée a été élevée par la télévision québécoise. Elle admirait des journalistes comme Jean-François Lépine, Raymond Saint-Pierre ou Joyce Napier. Son plus grand modèle était Sonia Benezra, et elle a longtemps cru que Francine Grimaldi était noire. L'un des grands moments de sa vie a été de se photographier avec Michel Richard, qu'elle adore, et elle est la première à hurler parce que Céline Dion n'est pas dans le palmarès des meilleurs chanteurs du Rolling Stone. Car Vanessa Destinée revendique aussi son droit à la légèreté et au fun. Alors ne l'appelez pas en panique seulement quand il y a une crise autour d'un enjeu de racisme. Ça se pourrait qu'elle vous dise non, parce qu'elle a tellement d'autres cordes à son arc et elle le sait. Il faudrait s'arranger pour ne pas la perdre. Je trouve que ça serait dommage pour la profession qui a le privilège de l'avoir dans ses rangs plus que de son bord. Questionnaire sans filtre. Le café et moi. J'ai toujours aimé beaucoup le café, mais je dois faire attention depuis que j'ai pris des médicaments contre l'anxiété en 2018. Depuis ce temps-là, je ne suis plus capable d'en boire. Ça me rend très agité et ça me donne des maux de tête. J'achète du décaféiné parce que j'aime beaucoup le goût, mais c'est comme un deuil à faire. Les gens morts que j'aimerais réunir à table. Joséphine Baker, une de mes grandes icônes noires à cause de son parcours de vie fascinant. Mata Hari, pourquoi pas, tant qu'à être dans les espionnes. Whitney Houston, pour qu'elle me fasse une sérénade juste à moi. Enfin, Martin Luther King et Malcolm X, ensemble, pour qu'on parle du chemin parcouru. J'aimerais qu'ils voient ce qu'il y a eu après eux. Mon modèle. La personne que j'admire le plus en vieillissant est la politicienne française Christiane Taubira. Elle n'est pas sans faille. Il y a eu quelques controverses associées à sa famille, mais c'est un exemple de détermination, de fougue et d'autorité que j'aime beaucoup. Elle a été victime de racisme tout au long de sa carrière, mais elle ne se laisse pas marcher dessus, elle répond aux critiques et ne se défile jamais. Je trouve ça extraordinaire. Vanessa est née le 4 mars 1990 à Montréal et est titulaire d'un baccalauréat en communication et coopération internationale de l'Université de Montréal. Elle collabore notamment aux émissions « Décoloniser l'histoire » et dans les médias à Télé-Québec et « Les clés du logis » au Canal Savoir. C'était « Le privilège d'entendre Vanessa », un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. Des emballages plus durables arrivent sur les tablettes. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Les contenants de lait d'un blanc immaculé seront bientôt chose du passé pour Nutrinor. La coopérative laitière du Saguenay-Lac-Saint-Jean change la plupart de ses emballages pour un produit plus écologique, un geste qui aura toutefois un faible impact, explique une experte. Tous les types de lait en format de 1 litre et de 2 litres embouteillés depuis le 10 janvier 2023 le sont dans des contenants multicouches faits de carton non javelisé, ce qui leur donne une couleur naturelle. Ces nouveaux emballages contiennent aussi moins de matière que les précédents. Ils sont par exemple dépourvus de revêtements glacés à l'extérieur, ce qui leur donne une texture différente. Ils nécessitent moins d'étapes de fabrication, ce qui réduit leur empreinte carbone de moitié, soutient l'entreprise. Nutrinor dit toutefois ignorer si une analyse de cycle de vie a été réalisée pour confirmer cette affirmation. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, restantes sont compensées par l'achat de crédits carbone par le fabricant Elopak, qui affirme ainsi que l'emballage est carboneutre. Le but, c'est de réduire cette compensation-là et éventuellement de réduire à la source ces émissions pour avoir un emballage carboneutre qui ne soit pas en partie carbo-compensé, mais la technologie n'est pas rendue là, a expliqué dans un entretien avec la presse Michael Norman, chef de la direction de Nutrinor. Ce n'est pas parce qu'on a lancé un emballage carboneutre que tout le travail est fait, dit-il. la coopérative dit aussi travailler avec son fournisseur pour réduire l'impact environnemental de ses autres emballages, comme les berlingots de crème ou les sacs de lait en plastique. Effet minime. Si louable soit l'initiative, elle n'aura qu'un effet minime sur l'ensemble de l'impact environnemental du lait, souligne l'ingénieure Catherine Houssard, agente de recherche au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIREG, à Montréal. C'est une toute petite partie, c'est un début, dit-elle, expliquant que la pollution de l'environnement par les fertilisants et les pesticides utilisés dans l'industrie laitière est plus importante que celle liée aux emballages des produits. Les consommateurs croient encore que les problèmes environnementaux sont liés aux emballages, ce qui incite les entreprises à agir sur cet aspect en premier lieu, dit-elle. Nutrinor en est bien consciente, assure Michael Norman, rappelant que la coopérative a adopté en 2020 son « pacte agricole durable » qui vise à mettre en place de meilleures méthodes de production à la ferme. Tout le lait produit par Nutrinor provient de vaches en liberté, illustre-t-il. Là où on pouvait agir rapidement, c'était sur le plan des emballages. C'est une étape parmi tant d'autres. Pour se battre contre les gros joueurs, il faut être différent, affirme M. Norman, disant faire le pari qu'à prix égal, car ces changements se font sans majorer les prix, assure-t-il, les consommateurs privilégieront un produit plus durable. La coopérative ne cache pas qu'elle espère par ses initiatives accroître sa place sur les tablettes à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ne sont distribués pour l'instant que certains de ses produits. Nutrinor compense en outre les émissions de GES liées au transport du lait de la ferme au marché qui s'élèvent à 1340 tonnes annuellement. Mais cette réduction de l'empreinte carbone de la coopérative laitière, même additionnée à celle liée au changement d'emballage, n'est pas non plus significative, indique Mme Houssard, agente de recherche au CIREG. Quand on réduit l'empreinte carbone de l'emballage, on réduit moins de 3 % de l'impact, dit la spécialiste, qui ajoute que le transport représente lui aussi environ 3 %. En gros, c'est 6 % de l'impact de la bouteille de lait. Cela dit, le lait québécois a l'une des plus faibles empreintes carbone au monde, à 0,93 kg d'équivalent dioxyde de carbone, kilogramme équivalent de CO2 par litre, alors que la moyenne mondiale avoisine les 2 kg équivalent de CO2, souligne-t-elle. En ajoutant le transport, la transformation, l'embouteillage, la livraison et les pertes, l'empreinte carbone totale atteint 1,3 kg équivalent de CO2. Compensation carbone critiquée. Catherine Houssard estime que les efforts de l'industrie laitière méritent d'être soulignés, mais s'inquiète des prétentions de carboneutralité qui se multiplient dans le commerce en général. Il n'y a pas de standard, de certification disponible pour la carboneutralité, ce qui ouvre la porte à de l'éco-blanchiment, explique-t-elle. On se retrouve comme il y a 10 ans avec les produits verts, où tout le monde s'est mis à faire plein de labels maison et finalement on a perdu la confiance des consommateurs, rappelle la chercheuse spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Elle ajoute qu'il faut d'abord travailler à réduire au minimum possible les émissions de GES avant de compenser celles qui sont impossibles à éliminer. C'était Des emballages plus durables arrivent sur les tablettes. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Dégringolade du français écrit. À qui la faute? Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans la presse. La pandémie a beau avoir le dos large, elle ne peut pas tout expliquer. Déjà, le 6 mars 2008, la presse publiait un texte du journaliste Denis Lessard intitulé « Les résultats en dictée piquent du nez », où il affirmait que si le taux de succès des élèves était basé sur la connaissance de l'orthographe, ce serait l'hécatombe dans les écoles secondaires du Québec. Et le 5 novembre 2009, Daphné Dion-Vian, journaliste au Soleil, écrivait que selon la moitié des professeurs, les élèves ne savent pas écrire. Et puis, le 6 décembre 2022, la direction de l'évaluation du ministère français de l'Éducation nationale a publié une étude révélant que dans une même dictée de 67 mots donnée par intervalle à des élèves de niveau primaire entre 1987 et 2021, le nombre de fautes était passé en moyenne de 10,7 à 19,4 fautes, soit presque le double. Dans leur rapport, les chercheurs crurent bon ajouter que l'orthographe française est l'une des plus complexes au monde et nécessite un apprentissage long et fastidieux. Va-t-on finir par comprendre qu'on aura beau jeter le blâme sur tous les intervenants et toutes les circonstances qu'on voudra, la faute réside avant tout dans la nature même de ce qu'on veut faire apprendre aux élèves, alors que les conditions longues et fastidieuses pour ce faire n'existent tout simplement plus. La maîtrise de notre orthographe, qui ne devrait pas être la composante la plus importante et problématique de l'apprentissage de l'écriture, pourrait raisonnablement s'acquérir dans les conditions actuelles, mais à condition qu'on lui fasse subir une sérieuse cure de minceur, comme l'ont fait avec succès de nombreuses autres langues, dont ces langues sœurs du français que sont l'italien, l'espagnol et le portugais. Comme le disait si bien François de Closet dans son ouvrage « Zéro faute » édition « Mille et une nuits » 2009, la grande mutation de notre langue se déroule sous nos yeux dans l'incompréhension générale. Les nouvelles technologies, qui font de l'écriture le moyen privilégié du 21e siècle, condamnent le statut traditionnel de notre orthographe dans notre culture. Ce qu'il faudrait, c'est donc une réforme en profondeur de l'orthographe et non seulement une réformette comme celle de 1990, qui n'a d'ailleurs jamais été imposée et qui a fini par mêler tout le monde. Mais la simple idée d'une telle réforme reçoit inévitablement une farouche opposition, d'où ces rectifications à la pièce. Un bel exemple de la sacralité de l'orthographe pour les francophones est le tollé qu'a soulevé la proposition d'écrire dans « La nouvelle orthographe » Nénuphar, N-E-N-U-F-R, au lieu de Nénuphar, N-E-N-U-P-H-R, afin de corriger une simple erreur étymologique. Or, non seulement l'italien, l'espagnol et le portugais écrivent-ils « Nénuphar » N-E-N-U-F-R, ils écrivent aussi, sans se soucier de l'étymologie, « orthographia »,« philosophia »,« pharmacia », où le PH est remplacé par F, ainsi que « rythmo »,« rythme », où le YTH est remplacé par IT. Cette priorité accordée à la transparence, la correspondance entre la graphie et la prononciation des mots, dans la refonte de leur orthographe, a fait en sorte que les élèves y font beaucoup moins de fautes que les jeunes francophones, ce qui leur permet de passer à des choses plus signifiantes, plus productives, dont l'acquisition de l'écriture. Il n'est absolument pas nécessaire, pour assurer la clarté de la communication, de savoir choisir pour transcrire le seul son « o » en français parmi les graphies « o »,« os », »,« ot », »,« o accent circonflexe t », »,« op », »,« oc », »,« au », »,« aux », »,« eau », »,« eaux », »,« haut », »,« aut », »,« ault », »,« eault ». et il en va de même de cette armée de suffixes grammaticaux, la plupart inexistants en langue parlée et qui servent, par exemple, à faire ou ne pas faire l'accord du participe passé dans une phrase comme « les choses que j'ai crues »,« devoir apprendre me sont apparues »,« injustifiées ». Et si on ne fait pas ici ces accords, la clarté s'en ressent-elle? Ceux qui s'opposent à une simplification de l'orthographe évoquent souvent l'atteinte à sa beauté et à sa richesse, le nivellement par le bas, le sacrifice d'un excellent instrument de formation intellectuelle. Or, il ne faut pas confondre l'outil et ce qu'on peut en faire. La notation musicale, cette orthographe de la musique, est un outil infiniment plus simple, plus transparent, plus convivial que l'orthographe française, et pourtant, il peut servir à produire les plus grands chefs-d'œuvre. Il ne faut pas non plus confondre nivellement par le bas et démocratisation de l'éducation. Rendre tout le monde capable d'écrire le français sans cette logorée de fautes qu'on trouve dans les médias sociaux serait un grand nivellement par le haut. Et pour ce qui est de la formation intellectuelle, c'est dans la conception, l'organisation et la transcription des idées en phrases bien construites au moyen d'un vocabulaire riche et précis qu'on la trouve, pas dans l'apprentissage fastidieux d'une orthographe bourrée de traquenards et de règles inutiles. Paul Valéry, ce grand poète, disait « Je ne parlerai pas de notre orthographe, malheureusement fixée en toute ignorance par les pédants du XVIIe siècle et qui n'a laissé dès lors de désespérer l'étranger et vicier la prononciation d'une quantité de mots. » C'était « Dégringolade du français écrit. À qui la faute ?» Un texte de Pierre Calvé, professeur de linguistique retraité, paru le 28 janvier 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.